RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, un régal pour les yeux et les oreilles, un match digne d'une rencontre internationale, des essais, du suspense et des génies sur la pelouse bordelaise. La rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain a tenu toutes ses promesses dimanche soir et même plus que ça, on s'est régalé et on en redemande. Aujourd'hui avec les poteaux, on va évidemment débriefer ce match qui nous a mis des étoiles plein les yeux, nous fait espérer une fin de championnat du même niveau. Et oui, quand les stars internationales sont de retour, le top 14 a quand même une autre allure et ses clubs aussi. C'est le cas de l'UBB qui avait douloureusement vécu la période des doublons et qui là semble revivre. L'UBB, vainqueur du Stade, est-elle désormais la rivale numéro 1 du Stade dans la quête du bouclier? Eh bien, on se posera la question. On reviendra également sur les prestations de quelques-unes des grandes stars du rugby français. Elles étaient toutes là ou presque hier sur la pelouse. On en a beaucoup parlé pendant le tournoi de ces garçons-là. Certains ont disputé une partie du tournoi, parfois dans la douleur. Ça a été le cas de Jalibert et de Lucu, qui étaient très attendus hier soir et qui ont répondu aux attentes. Et puis d'autres ne l'ont pas du tout joué ce tournoi. Mais lorsqu'Antoine Dupont, et oui, je vais parler de lui, est de retour, ça change tout ou presque. Pour débattre, s'opposer, se houspiller, voici l'équipe des poteaux du jour, équipe composée de Denis Charvet. Bonjour mon Denis.
Bonjour messieurs.
De Wilfried Templier, la voix du rugby. Hello Wilfried. Et de salut. Winnie Claret.
Salut tout le monde.
Ma petite Winnie qui a attaqué, elle, le tournoi féminin.
Et oui,
cette semaine.
Avec succès.
On en parlera dans les poteaux. On en parlera notamment au moment de France-Angleterre. Parce que là, ce sera quand même un crunch.
C'est ça le révélateur.
Un sacré goût. L'équipe de France qui s'est imposée sans trembler face à l'Irlande. Donc samedi, lors du premier match. Et qui affrontera
L'Écosse, samedi.
Samedi prochain.
Ouais. 38-17, ça c'est le score. La victoire des Bleus, eh ben, on avait perdu 38-17 contre l'Irlande chez les hommes.
Ah
c'est
ouais.
Fou, hein. On a inversé le score.
C'est fou. Bon, ouais, eh ben, c'est pas tout à fait le même niveau, hein, l'équipe féminine d'Irlande, que l'équipe masculine. Qui osera encore dire, après ce qu'on a vécu hier soir, que le top 14 ne vaut pas un clou? Qui, hein, ici? Personne n'ose lever le doigt, parce qu'hier c'était fiesta, feu d'artifice, trompette et paillettes. Le top 14 avait sorti ses habits de lumière.
C'est parti! Premier ballon tapé par l'UBB! Ouais, sur les extérieurs, faut l'envoyer! Le duel, le refus! Il y va! C'est Moefana finalement! 1 minute et 15 secondes! Bordeaux est devant! 5-0! Ça fait deux essais pour Bordeaux, 22e minute, 10-0.
Il est lancé comme un frelon celui-là, je sais pas combien il pèse. Je le croise au centre commercial, je le regarde pas dans les yeux et après...
Tu payes les courses d'ailleurs pour lui.
Je lui paye les courses et je lui dis bonjour monsieur, vous allez bien?
Le troisième essai bordelais, ils sont en train de régaler.
Grosse première mi-temps, grosse impression laissée par les Bordelais.
Toulouse qui doit marquer maintenant pour relancer un peu de suspense dans cette partie à 2 mètres maintenant. Et c'est Aki qui vient marquer au milieu des poteaux, laisser un petit peu de la révolte des Toulousains.
Oh, Antoine Dupont, le périph', Antoine Dupont, le croisé pour le mec. Chistera un peu à l'intérieur pour Mathis Lebel qui derrière doit quand même mettre les câbles,
caviar,
et mettre un petit crochet.
Voilà l'inspiration d'Antoine Dupont. Waouh!
Le Stade Toulousain est monumental. Le Stade Toulousain est en train de reverser l'Union Bordeaux-Bègles. Deuxième essai en 2 minutes pour Mathis Lebel.
Oh,
oui. Oh,
oh,
le décalage!
Oh, oui. Oh, 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 Pochato!
Essai!
En bout de ligne!
Victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur une dernière possession! Bordeaux s'est relancé face à un grand Stade Toulousain, un grand Antoine Dupont. C'était un immense match de rugby ce soir.
Voilà, et deux commentateurs au top, hein, Romain Asselin, Nicolas Paoulos, ils se sont éclatés là, ils se sont éclatés. Alors au début je pensais qu'ils n'allaient s'enthousiasmer que pour les essais bordelais, évidemment quand Toulouse se fait taper ça leur plaît, mais on a vu qu'à la fin aussi les essais toulousains les ont ravis.
Ah, ça a mis tout le monde d'accord,
ah,
en même temps, on a de la qualité
match,
quand même.
Quel match, quand on voit ça, franchement, ça réconcilie avec le top 14. Parfois, bon, c'est vrai que après le tournoi, se dire on va replonger dans le top 14, il va y avoir des impasses, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça va encore être coupé par la Champions Cup.
Il n'y a mais pas là... que des UBB Toulouse quand même, hein, ce week-end.
Non,
mais ça va, Wilfried, tu vas pas te plaindre quand on a vu un aussi de match à suspense.
Racing,
et alors, il y a eu du suspense, non?
Ouais, enfin pendant une heure, je me suis endormi, mais bon.
Alors, si tu veux comparer la Ligue 1, top 14 et la Ligue 1, tu t'ennuies encore plus en Ligue 1.
Oui.
T'as quand même de bons matchs de top 14.
C'est vrai que quand on quitte le tournoi, on a toujours un moment, un coup de cafard. On va retourner dans le traditionnel.
C'est moins exceptionnel.
Surtout après les matchs, notamment le France.
Non, mais hier, la projection pour le rugby, c'est extraordinaire. Un dimanche soir, j'aimerais savoir l'audience.
Surtout qu'il n'y avait pas de Ligue 1 en face.
Il n'y avait pas de Ligue 1. Il y a Dupont qui revenait.
Ça. ça fait 700 000, c'est le record de Canal apparemment. Il y a une pointe à 1 million de téléspectateurs.
Non, mais ça m'étonne pas, c'était extraordinaire.
Ouais. Avec en plus la meilleure note de la saison pour le match, évidemment, parce que le million de téléspectateurs qui étaient devant Canal, eh bien, en plus, a eu droit à un super match. Ça nous réconcilie donc avec le top 14. Est-ce que vous avez souvenir de rencontres de championnat dans la saison régulière, aussi en ballant
ben, à l'époque de Max Rosini qui organisait des matchs au Stade de France, qui remplissait le Stade de France, souvenez-vous, il y a eu de grands matchs de rugby, oui, dans le Stade français, Stade Toulousain. Stade français.
Mais c'était souvent en fin de saison.
C'était aussi au milieu de saison. Non, il a organisé.
Moi, j'en ai deux de l'énorme saison de Toulouse 2018-19 avec Colby et compagnie. Il gagne à l'UBB. Je sais pas si vous vous souvenez, ils sont menés 36-7 à la mi-temps et ils gagnent 43-36 à la fin. Rien que le score, rien qu'on vous dit ça, c'est énorme. Et un mois avant, ils avaient reçu Clermont au Stadium. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un ballon de récupéré par Colby au 22, il grille toute la défense, il gagne 47-44 contre Clermont ce jour-là, et voilà, 47-44, une orgie, et voilà, il y en a peu. Il y en a peu, mais il y en a eu.
Faut pas aller si loin. Le 17 juin dernier, on a quand même eu une finale et
La saison régulière. Évidemment, les phases finales.
Mais non, mais parce que justement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Les phases finales, on peut se faire, on peut s'embêter, on peut s'ennuyer.
Oui, mais c'était pas le sujet là.
Non, mais d'accord, mais parce que justement, toi, tu l'as de base.
N'essaie pas de renverser la question.
Non, Denis, le postulat de base, il est biaisé. Oui, mais on peut pas dire qu'on s'enthousiasme toujours sur des matchs de phase finale.
T'as vu comment elle est
Non, mais vous êtes pas rire. Mais vous savez pas, les auditeurs, mais regardez le petit sourire de Denis là.
Mais non, mais c'est
on
vrai.
A envie d'aller lui tirer l'oreille
on
comme
dit
ça.
Saison,
là.
Dans la saison
oui,
régulière.
Oui, c'est bon, Denis.
Bon, en tout cas, ça tombe bien. ça tombe bien pour la Ligue nationale de rugby, dont on a appris cette semaine qu'elle allait essayer de négocier à la hausse les droits du top 14.
Il y a un vrai débat, un vrai sujet. Je trouve le monde. Le montant, il est faible, il est trop faible, c'est pas possible.
Mais c'est quand même le montant le plus élevé.
Oui,
mais
aujourd'hui, c'est un spectacle, il y a du monde dans les stades sont remplis.
Oui, mais la question, c'est pas ça, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence, Denis ?
Mais malheureusement, il n'y a pas de concurrence, c'est ça le problème.
Ah, donc
mais
le montant n'est peut-être pas si faible parce qu'il ne peut pas trop monter s'il n'y a pas de concurrence énorme.
D'accord, mais oui, quand tu payes un milliard pour la Ligue 1, que tu vois le bouilli, que tu regardes. Désolé, je veux bien.
Il y a quand même eu quelques péripéties dans les droits, dans la vente des droits de diffusion du foot pour qu'on évite de prendre. D'emprunter le même chemin.
D'accord.
Après, et surtout, c'est quand même le partenaire. Enfin, c'est plus
historique.
C'est plus que le simple diffuseur. C'est un vrai partenaire qui a accompagné la croissance du rugby français.
Oui, mais c'était la même chose avec le foot pendant très longtemps. Canal était le partenaire privilégié de la Ligue.
C'est pas le même écosystème.
Qui vient concurrencer Canal sur les droits du rugby.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un concurrent? Mais s'ils le font, c'est que ils espèrent peut-être
l'arrivée. Mais parce qu'en plus aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur les pelouses du rugby international. On a des plateformes comme Netflix qui filment. On pourrait avoir Amazon Prime.
Non, il y a un vrai danger. Le problème du rugby, c'est qu'il y a une vraie exposition aujourd'hui grâce à Canal. Demain, tu pars sur Netflix.
C'est 121 millions par an. Hein,
si tu pars sur une plateforme comme Amazon et tout, tu n'as pas du tout l'assurance d'avoir de l'audience, de l'exposition. Il y a un vrai enjeu.
C'est fabuleuse quand même. Tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, à 21h, le samedi après-midi. Franchement, ils font un travail magnifique.
Alors après, est-ce que c'est pas pour se mettre d'accord avec Canal, entre Canal et les dirigeants se mettent tranquillement d'accord comme ils l'ont fait à l'appel d'offres précédent en montant il y avait eu le Covid, Canal avait été aussi gentil
de
parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence, de soutenir, de monter les droits, étaient montés un peu, peut-être pas assez Denis, mais ils étaient montés. Est-ce que là c'est pas la même chose pour sécuriser vraiment le rugby sur l'après 2027?
Parce que c'est très tôt,
entre les dirigeants de la Ligue et Canal, est-ce que vous voyez vraiment une l'ombre d'une mésentente? Moi je pense pas.
Il y a de la négociation, il y a toujours de la négociation.
Attention quand même à pas vexer Canal+, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le foot. Quand on veut jouer au plus fin avec eux, ils peuvent vous faire de sacrés entourloupes. Bref, on verra ce que ça donnera, mais je suis pas sûr qu'on change de diffuseur tout de suite et que les sommes atteignent celles du foot. On va donc revenir à ce match, parce que évidemment, pour qu'il y ait un match d'une telle qualité, il faut des joueurs de grande qualité. Et c'est vrai qu'à la différence de beaucoup de matchs annoncés,
annoncés comme des affiches, eh bien là, toutes les stars étaient présentes. Il n'y a pas eu d'impasse. Hugo Mola aurait pu se dire, bon, écoute, on va à Bordeaux et ils vont envoyer l'équipe de folie. Nous, on va y aller avec une équipe B. Ça n'a pas été le cas, Wilfried.
Il manquait que Movaca.
Voilà, il manquait Movaca, mais autrement, il y avait un banc de folie. D'ailleurs, on a vu la différence en deuxième mi-temps. Hein.
Et on en reparlera, et Romain Tama qui doit revenir un peu plus tard. Mais ça, c'était juste par prudence. Et oui, et un banc de folie, c'est vrai, quand vous faites rentrer, on va en reparler aussi, mais les Méafou, les crosses, les bails.
Dupont, il est rentré tôt,
il était sur le banc, mais. Non, c'était une équipe type, du Stade Toulousain et une équipe type de l'UBB. Donc c'est évidemment,
sans compter les révélations que sont le petit Coste, qui en est peut-être plus une, mais qui est surprenant de week-end après week-end. Quoi.
Je parlais de Joshua Brennan aussi, qui fait
Brennan
des très bons matchs en troisième.
Qui a monté aussi son niveau. Ouais. C'est des joueurs qu'on attendait, mais peut-être pas aussi vite à un tel niveau.
À qui
ça fait longtemps qu'il est énorme.
Moi, j'hallucine à chaque fois que je...
Après, je ne sais pas si on va parler de Dupont.
Non.
C'est vrai, c'est un garçon dont on n'a pas l'habitude. Sur Dupont.
Juste sur des questions.
En même temps, il a fait du Dupont.
C'est comme si on faisait un débat de foot sans parler de Mbappé, tu vois, c'est un peu pareil.
Oui, mais le problème, c'est que...
C'est comme si on faisait les grandes gueules du sport une semaine sans faire un débat Mbappé.
Est-ce qu'il te surprend, Dupont?
Moi, il me surprend
attends,
à chaque
parler,
fois.
Attends, on va en parler, attends.
Mais le fil conducteur, on t'a dit.
Non, il a pas lu.
Je ne regarde pas le film.
On en parle.
Le
tout
fil,
à l'heure.
Tu sais où tu te le mets, le fil.
T'as qu'à lire un peu les textes que je t'envoie.
Alors, en plus.
Toutes les stars étaient là. Est-ce que ça veut dire que, à l'avenir et dans les semaines qui vont venir, les entraîneurs vont éviter de faire des impasses et vont aligner leurs équipes types à chaque fois? Ou alors, faut pas croire au Père Noël?
Avant et après les huitièmes et quarts de finale de Coupe d'Europe, ou avant une demi ou une finale de Coupe d'Europe, on en reparlera par contre.
C'est ça qui va commencer à se corser là, c'est qu'on a une dernière ligne droite mais qui est sacrément dense parce qu'on était à la 19e journée.
Il reste 7 matchs de
saison régulière. Mais entre-temps, les huitièmes de finale qui arrivent de Coupe des Champions sur le deuxième week-end d'avril, je crois, ou le premier week-end plutôt d'avril.
Dans 15 jours.
Ouais, dans 15 jours. Là, il va falloir quand même gérer. Ouais. Alors, on a un Toulouse qui sait exactement ce que ça veut dire de gérer son effectif. Ils ont développé depuis quelques saisons avec Hugo Mola une sacrée profondeur de banc et on en reparlera. Mais effectivement, on a des équipes comme l'UBB qui peut se poser cette question, comme La Rochelle, comme le Racing, où il va falloir se demander ce qu'on fait des internationaux qui sont revenus, est-ce qu'on les utilise à chaque match. Il y a forcément des choix qui sont opérés.
Parce que là, on sent que les internationaux sont sur la prolongation du tournoi, c'est-à-dire ils sont sur leur pic de forme. On se demande d'ailleurs si les joueurs qui étaient alignés hier, je crois qu'il y avait 14 internationaux sur la feuille de match, il y en avait 11 sur le terrain. On se demande bien si cette équipe-là n'aurait pas pu battre l'Irlande finalement, hein, parce que on les sent quand même plus en forme qu'au début du tournoi.
L'état de forme des Irlandais face à l'Écosse pour leur dernier match. Alors certes, ils vont quand même chercher la victoire contre les Écossais, mais malgré ça, on les sent moins imprenables que sur le premier match à Marseille face aux Bleus. Alors que les Bleus, et d'ailleurs ça a été assumé par le staff tricolore, ils avaient visé un pic de forme justement sur cette fin de tournoi, parce qu'au bout de 7-8 semaines de rassemblement, c'est là où les Bleus étaient à leur pic de forme. Alors ils continuent à surfer aujourd'hui là-dessus. On peut se demander légitimement si cette équipe internationale aujourd'hui aurait battu les Irlandais de Marseille. Mais là, la vraie question, c'est du coup, où est-ce qu'on vise notre pic de forme? Est-ce que c'est au début, est-ce que c'est à la fin? Quand on voit le match face aux Anglais, on peut pas dire qu'on s'est trompé.
Non, on s'est pas trompé face aux Anglais, mais le problème, c'est que tu joues l'adversaire le plus compliqué en premier match. Ouais. Donc si t'es pas c'est en forme pour le premier match, ton tournoi, il est foutu, quoi.
Il y en avait 15 hier soir, je viens de compter.
15? Ah oui, t'en avais 15. D'accord. Ok.
Non, mais il est certain aussi, on n'en parle pas, on est obligé d'en reparler du traumatisme de la Coupe du Monde. C'était pas qu'un problème de pic de forme non plus. C'était un problème de lassitude, de les mecs étaient un peu arrivés au bout de l'énergie qu'ils avaient mis pendant 4 mois et il a fallu redescendre sur terre. Donc oui, le calendrier n'était pas bon pour nous, on démarrait l'Irlande, c'était pas une opposition favorable, mais C'est comme ça. Hein.
Alors, bon, faut peut-être profiter d'eux en mars-avril, hein, parce qu'en mai-juin, ce sera les survivors. Hein, ceux qui ont commencé début juillet à Monaco, la prépa de la Coupe
mais
du
non,
Monde.
Mais même avant, Wilfried, du coup, parce que ceux qui ont joué les phases finales de Top 14, qui ont embrayé deux semaines après sur Monaco, ouais. qui ont fait les 4 ouais. mois et puis la Coupe du Monde, et qui, pour certains, ont même embrayé très rapidement après l'élimination en quart de finale
mais
du
Toulouse
Mondial.
Mais Toulouse ne sera pas trop impacté.
Sur le Top 14.
Parce que Toulouse, ils ont plein de joueurs qui ont été blessés, comme Marchand, Jelonge qui va revenir.
Tamac.
Tamac, Dupont qui s'est géré aussi.
Flamand qui est revenu très fort.
Flamand, mais
à
fou. Ouais. C'est Toulouse va être l'ogre de sa finale, hein. Il me semble. Hein.
Bah, ils avaient besoin de ça déjà pour être les ogres de ce top 14. Certains vont quand même prendre des vacances et, parmi les internationaux. Winnie, est-ce qu'on en sait un peu plus justement c'est,
alors,
y a des dispositions légales à ce sujet-là.
Légalement, tous les joueurs de rugby en France ont 6 semaines de congé. Pendant la saison et pendant l'été. C'est en gros une semaine en début de saison, une semaine en fin de saison et 4 semaines vraiment off-off, même pas de préparation, rien, pendant l'été, pendant l'intersaison. C'est évidemment du gré à gré. On l'a vu avec Grégory Aldridge juste après la Coupe du Monde. Ça avait été dealé avec son club avant la Coupe du Monde de prendre un long moment hors des terrains, loin des terrains, parce qu'il avait besoin de se régénérer physiquement et mentalement. Ce sera le cas avec Antoine Dupont après son aventure olympique à 7. Il a décidé de prendre une pause. Alors, on n'en connaît pas encore exactement tous les contours, mais il va prendre une pause longue après ça. Il risque d'y avoir aussi des internationaux qui ont joué le tournoi, qui, pendant cette dernière ligne droite de Champions Cup et de Top 14, vont avoir des semaines off. C'est nécessaire.
Tu sais s'ils ont des RTT ou un CET ?
Ils génèrent 3 jours de congé par mois, les joueurs de rugby, contrairement au commun des mortels où nous, on est à 1 ou 2 jours par mois, il me semble, de RTT. Eux, c'est 3. En même temps, vu les tampons qui se mettent, il vaut mieux. Merci Wilfried. Tu m'avais dit que tu me savonnerais pas la planche. Mais
c'était pour la blague. C'était pour
voilà
la blague.
L'esprit collectif à RMC.
C'est ça, ouais. Le capitaine qui met des pots de banane.
C'était pour la vanne. Elle était très sérieuse. Elle me répond très sérieusement.
Entre Denis
une vanne,
et
Winnie,
toi,
hein.
Wilfried, franchement.
Moi, j'ai rien fait, moi.
Moi, je suis sous le bureau, là. Je suis sous les.
Moi, je suis sympa.
Je t'ai demandé s'ils avaient un CET. C'était quand même une blague, quoi.
Compte
épargne temps pour ceux qui connaissent pas.
Voilà. Bordeaux qui hier soir s'est donc réconcilié avec son public qui avait trouvé le temps un peu long pendant les doublons avec pas moins de 4 défaites en 6 matchs qui les avaient fait dégringoler au classement. Et bien hier soir ils ont attaqué pied au plancher en inscrivant 4 essais en première mi-temps, ce qui leur a permis de regagner les vestiaires sur le score de 24-7. On avait Denis, rarement vu le Stade toulousain bousculé de la sorte et troué en 40 minutes. Hein.
Alors autant par le passé on parlait de complexe toulousain du côté de Toulouse, de Bordeaux, autant là ils avaient bien préparé ce match. Je pense qu'Yannick Bru les avait bien préparés à cette confrontation. Il devait avoir plus envie de les battre et ils sont rentrés avec une agressivité rare. Donc je pense que contre Toulouse t'as pas le choix. Si t'es pas agressif contre Toulouse, tu peux pas gagner. Donc
là, sur le jeu au sol,
déjà donc, au niveau de l'agressivité, ils ont fait le job. Et puis, ça a contrarié Toulouse, qui a joué un peu à l'envers. Même Antoine Dupont, en première mi-temps, sur 2-3 choix, il n'a pas été très clairvoyant. Et d'ailleurs, une fois, il s'est prendre le ballon, il a essayé derrière.
Ouais, voilà, c'est ça qui
donc, oui, mais ils ont été bousculés. Et puis, il n'y avait pas photo.
Ils s'y attendaient quand même.
Oui, mais à ce point, même nous, téléspectateurs, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que Bordeaux mette une leçon d'engagement physique à Toulouse. Et puis après, on a vu la différence avec le banc toulousain a fait la différence aussi, enfin, on en parlera. Mais...
En première mi-temps, notamment sur le jeu au sol, on sait très bien que pour mettre la petite graine dans le jeu toulousain, le grain de sable pardon, dans la machine toulousaine, Yannick Bru le sait parfaitement, c'est le jeu. La petite graine. Ouais. Je t'entends pouffer.
On fera écouter Adrien Gouin ce petit podcast.
Le grain de sable.
On est d'accord, on en parle à Adrien.
On mettait des graines à notre âge.
J'envoie un texto à Adrien tout de suite.
Dans la machine toulousaine, c'est le jeu au sol. Et il n'y a pas eu un ruck facile pour Paul Graou en première mi-temps. Ils ont été obligés de mettre beaucoup de monde dans les rucks, au sol. Et voilà, oui, il y a une grosse agressivité, mais c'est le rugby, hein, c'est mettre la pression ou la prendre.
Et l'agressivité, elle était en défense, dans les rucks partout, mais aussi en attaque. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie envie quand même de dynamiser cette rencontre. Et on voyait quand même qu'il y avait vraiment une belle énergie, notamment Moefana.
Qui a pas été énorme avec l'équipe de France.
Que là, il était transcendé. C'était pas le même joueur.
Ah, donc et puis on a retrouvé le Penaud.
Penaud aussi, rageur, scoreur, marqueur.
On va parler des.
Mais je pense que le contexte aussi du stadium là-bas, ça y fait aussi.
Matmut Atlantique, ouais.
Parce qu'il y a eu une ambiance incroyable.
Le Matmut.
C'est l'endroit des demi-finales en plus, hein. C'était pour aussi. Il y avait psychologiquement, ils peuvent se retrouver à ce moment-là aussi, hein. Donc et puis ils en ont peut-être marre les Bordelais aussi. Au bout d'un moment, ils avaient joué, rappelez-vous les dernières contre La Rochelle, ils avaient pris une tôle au Matmut, ouais. Éliminé en demi-finale. Voilà, je pense qu'à un moment, ils se disent on en a marre, quoi, c'est à nous. Quoi.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grosse rivalité entre Toulouse et La Rochelle ces dernières années, mais entre Toulouse et Bordeaux, elle est peut-être encore un peu plus importante parce que ce sont les deux grandes villes du sud-ouest. Wilfried, toi qui habites dans la région, quand on parle d'un Bordelais, un Toulousain, il rigole et l'inverse. Quoi. Et ça se chambre sévère entre les deux villes et entre les deux rugby. Hein.
Oui, enfin les Toulousains adorent chambrer les Bordelais.
Oui, et les Bordelais
notamment
aussi.
Sur le palmarès. Ces dernières années.
Oui. Non mais je te parlais pas seulement de rugby, c'est finalement dans...
Ils s'aiment pas. Hein. Oui. C'est sûr hein, que ce soit au foot, au rugby, voilà, ça se toise. Hein, il y a une vraie rivalité. Plus qu'on a voulu faire un derby de l'Atlantique entre La Rochelle et Bordeaux.
Ouais.
Je pense que la rivalité, elle est bien plus forte entre Toulousains et Bordelais.
Ouais. Voilà. Ah oui, elle était surtout entre les entraîneurs à l'époque de Bordeaux et de La Rochelle. C'est un peu moins le cas maintenant. Ne punit pas non plus le stade toulousain impunément de la sorte. Et au retour du vestiaire, c'est donc une autre équipe toulousaine que l'on a vue. Ils n'aiment pas les fessées, les Toulousains, Wilfried. Ils savent les retourner à leurs envoyeurs. Toulouse, qui est aux alentours de l'heure de jeu, a inscrit 3 essais, et ce qui leur a permis de reprendre le score. On le disait, c'est le banc qui a fait la différence, le banc toulousain, avec les gros porteurs, les crosses, les méafous.
Le banc qui était digne d'un 15 de départ. Hein.
Bah, oui.
Impressionnant.
Ouais, Barassi, cross, méafous. Bye.
Tous apportent un supplément d'âme. Quoi. Ah ouais. C'est assez incroyable. Hein.
C'est un supplément physique aussi.
Ben bon, oui, physiquement aussi, oui, mais tu sens aussi en plus de la confiance.
Ouais.
Et puis avec le banc, il y a quand même le dénominateur, c'est quand même Antoine Dupont. Il fait une seconde mi-temps extraordinaire. Non, mais je veux dire, je plaisante tout à l'heure.
Vous n'avez pas deviné qu'un essai du Stade Toulousain allait enclencher la machine, et on a l'impression que cette confiance elle est exponentielle chez eux. Plus ils se nourrissent de ça, ils marquent un essai, le doute un peu chez l'adversaire, et là la cavalerie arrive, quoi. Moi je
ouais, à ce point
après ils jouent, ils se balancent les ballons sur la tête et ils marquent de partout,
mais j'ai senti quand même que le complexe revenait des Bordelais, hein. J'ai senti que tout d'un coup ils passaient à côté du match, ils regardaient les Toulousains jouer et je sais pas, ils étaient inhibés. Alors qu'en première mi-temps c'était l'inverse. Et là tout d'un coup
ils avaient beaucoup donné aussi.
Mais en première mi-temps les Toulousains, il fallait regarder un petit peu la tête notamment que tiraient des Dupont et consorts. Ils sont restés avec un sang-froid alors qu'ils s'en sont pris quand même des essais en première mi-temps coup sur coup.
Et
qu'ils ont buté, ils ont buté sur la ligne bordelaise. Mais on sentait le sang-froid. On sentait qu'ils étaient dans leur tête, c'était vous inquiétez pas, on va revenir en seconde mi-temps. On va revenir très fort. Alors évidemment, quand on sait les gars qui étaient sur le banc, ben, y a un peu de sérénité.
Un peu de confiance.
Ça, c'est certain.
Les équipes adverses le savent, ça en plus, Winnie.
Tout le monde se scrute. Et les Toulousains sont les seuls qui sont un tantinet serein parce qu'ils savent que eux, jusqu'à la 80e, ils peuvent aller retourner le match.
C'est la première fois où Beg, quand même, a résisté.
Jusqu'au bout, quoi.
Jusqu'au
buzzer.
Et surtout, alors que Bordeaux aurait pu complètement sombrer après que Toulouse soit repassé devant,
Je pensais jamais qu'ils allaient gagner ce match. Après, quand Toulouse passe devant, je dis c'est bon, c'est mort.
Ouais.
L'histoire, elle est morte et c'est très cruel pour Bordeaux.
Mais quand on prend un petit peu les statistiques
c'est
du côté
toulousain. C'est un peu le même scénario que France-Angleterre la semaine d'avant, ça ressemble.
Quand on prend les statistiques côté toulousain, on se demande même presque comment Toulouse a pu perdre à la fin du match. Ils sont 32 défenseurs battus du côté de Toulouse, 20 offloads, donc 20 passes après contact. C'est dire à quel point, on l'a vu notamment avec Méafou, ils étaient décomplexés, débridés. Il y a eu 122 rucks gagnés. Les Bordelais ont créé 122 rucks en allant plaquer les Toulousains et les Toulousains n'en ont perdu que 3 sur 125, ils n'en ont perdu que 3. Ils ont gagné tous leurs mauls, ils ont été meilleurs en touche. Les Toulousains ont été énorme.
Et ils ont eu la possession et l'occupation. Énorme. C'est 60-40 pour le Toulouse, possession et occupation.
C'est énorme. Et ils perdent le match parce que Bordeaux a eu ce petit supplément d'âme dont on parle et qu'ils ont refusé de perdre à la fin du match.
Justement, alors je voudrais avoir votre avis sur la décision d'Hugo Mola, puisque les Toulousains bénéficient d'une pénalité.
Je voulais en parler.
Bénéficient d'une pénalité qui leur permet, qui leur aurait permis de passer, de revenir à égalité.
Non, c'est parce que tu avais joué le nul.
Mais non, mais je vais t'expliquer pourquoi.
Mais non, il dit un point, on s'en fout, il dit. Laisse finir Christophe.
Mais on s'en fout si à la fin de la saison ils finissent second. S'ils finissent troisième à la fin de la saison, excusez-moi, on s'en foutra pas. C'est deux points abandonnés. Deux points. Et alors, aujourd'hui, Bordeaux, ils sont à 7 points alors qu'ils devraient être à 10 points. Vous vous rendez compte, c'est là où tu peux pas donner raison à Moulin. Tu peux pas lui donner raison.
T'es un épicier, en fait.
Mais pas du tout. Ils sont à 10 points, tu tues Bordeaux.
Mais non, il sera à 9, il serait à 10 points. Mais non, il serait nul s'il tentait la pénalité.
Toi qui es Toulousain, comment tu peux dire des choses pareilles?
Il serait à 7 points.
Tu es là à compter avec ta petite calculatrice.
On en reparlera.
J'ai trouvé que c'était audacieux. Après, on connaît. Mais à la 80e, quand il n'y a plus de feu, tout de suite le taxer de mépris, mais.
Non, mais la difficulté d'aller marquer un essai à la fin, c'est
mais t'imagines comment tu aurais marqué ton adversaire au fer rouge si tu le bats dans les dernières secondes sur son terrain après la première mi-temps que les Bordelais avaient fait. C'est un pari. Hugo Mola, il perd pas grand-chose en le perdant. Il aurait gagné énormément
Il peut perdre beaucoup, franchement.
Ouais. Ah ben oui.
Il a tellement gagné de points pendant les doublons que.
D'accord, mais.
Toulouse est la meilleure équipe pendant les doublons que là, il peut se dire allez, un point, ça change rien. On va chercher la gagne.
Il n'y aura pas d'accident de Toulouse.
Ouais.
Tu les vois, franchement.
C'est un oiseau de mauvais.
Moi, j'ai trouvé un peu prétentieux. Voilà. C'est mon avis.
Ah, voilà, prétentieux.
Ouais. Oh là là.
C'est pas
nous qui disons ça, parce que alors là, on se fait rentrer dans la gueule.
Non, mais Vincent dirait pareil, c'est Boulard Dico.
C'est bien Denis, quand même, qui est un enfant du stade.
Il s'est déjà fait Fabien Galthié, maintenant il se fait Hugo Mola, quoi.
Hugo, c'est mon pote.
Il s'est déjà fait Fabien Galthié, ça lui suffit pas.
Mais Hugo, il est extraordinaire. Mais je comprends. Mais non, mais il est manager. Là, il est plus manager dans son rôle quand il fait ça, c'est tout.
Ouais.
Parce qu'un manager, il compte. C'est un comptable aussi.
Bah,
un
il a compté, mais il a perdu. Il a tenté à Paris.
Est-ce que c'est pas d'aller chercher le nul? Et en plus, le nul derrière, tu récupères le ballon. Donc tu peux encore chercher la victoire. C'est en plus.
Alors, on va écouter Hugo Mola, que tu viens d'astiquer un petit peu,
Je n'ai pas astiqué, j'en ai mon point de vue.
Asticoter plutôt.
Moi, je pense qu'il a eu tort. Non, pas du tout, il a eu tort.
Asticoter donc Hugo Mola.
C'est peut-être le futur sélectionneur.
C'est pour ça qu'il s'entraîne. Il commence à s'entraîner, Denis, parce que c'est quand même le mec qui a eu la peau de tous les sélectionneurs de France et de Navarre.
Vous n'êtes pas capable de dire des choses, vous êtes peur. Toi, t'as peur, toi, c'est incroyable. Toi, tu critiques l'Italie parce que tu sais que t'auras rien.
Même Bernard Laporte.
Tout ce que t'as balancé sur l'Italie, toi.
Parce que j'ai balancé
sur l'Italie. Parce que tu sais très bien que l'Italie,
c'est rien. Si, ça c'est vrai, par contre. Tu croyais pas en l'Italie, Christophe.
Croyais pas à l'Italie.
Ça c'est vrai.
Ça y est, ça se retourne contre moi. On va donc écouter Hugo Mola qui nous parle du retour du Messi, Antoine Dupont, qui était donc parti à 7, qui a retrouvé son équipe. Et en plus, même pas à son poste. Il était au poste de ligne d'ouverture hier, après la blessure de Thomas Ramos. Alors, comment a-t-il trouvé Antoine Dupont? La réponse d'Hugo Mola.
Ouais, après, Antoine, il n'a pas signé cette année. Hein. Antoine, il est là depuis 2017. Donc, heureusement qu'il revient, il peut jouer un peu rugby avec nous. C'est la moindre des choses. Je pense que c'était beaucoup moins exposé que ce que tout le monde voulait bien le dire au départ. Ramener autant de jeux, ramener à la fraîcheur qui est la sienne. Je pense que le 7 lui a fait du bien. Je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il faisait du bien au 7. Et donc, on espère que ça va durer. On joue un match de phase finale dans 15 jours. On a une réception, du coup, qui va compter contre Pau ce week-end. Et puis, on a des échéances. Notre fin de championnat est quand même costaud. Donc, comme vous pouvez le voir, rien n'est gagné. Est acté à ce jour et on a bien senti qu'il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui de Bordeaux qui ne voulait pas se retrouver hors des 6, ce qui aurait été d'ailleurs pas très mérité au regard de son début de saison. Sauf que le match, à un moment ou un autre, ils l'ont eu dans les mains et on l'a eu. Malheureusement, il nous a peut-être un peu échappé sur les 2-3 dernières situations du match.
Voilà, analyse d'Hugo Mola. Denis, tu as des choses à ajouter critiques à formuler.
Non, mais sur le match en lui-même, c'est-à-dire que oui, il peut aller le gagner le match à la fin, mais déjà tu finis avec un match nul, c'est déjà miraculeux vu la première mi-temps que tu fais. Donc voilà, après c'est son rôle de manager.
Mais tu avais peut-être parié sur un match nul.
Non,
je même pas.
Ah ouais.
Non, même pas.
Non, même pas. C'est même pas.
Ça. Non, c'est pas ça. Faire match nul à Bordeaux dans des conditions comme ça, c'était une belle victoire, je trouve. Mais après, c'est en ça que je dis que c'est un peu osé, quoi, et que le pari. Je trouve quand même. tu vas chercher les 3 points, tu fais un match nul à Bordeaux, tu les enterres presque en plus, en match nul, pour aller chercher l'année 6, après, ça aurait été très compliqué pour eux. C'est-à-dire que tu t'es débarrassé de Bordeaux. Mais bon, après, c'est mon avis, moi.
C'est
mon
avis. Okay. Non, c'est un avis légitime. Ouais.
Non, mais vraiment, sur l'instant, je l'ai pensé, je comprends pas.
On va écouter maintenant Cyril Bailly, évidemment, qui était ravi de retrouver aussi son copain Antoine Dupont, qui lui a manqué lorsqu'il est parti à 7. Il n'était pas à ses côtés en équipe de France. Et pour Cyril Bailly aussi, eh bien, ça change tout d'avoir Antoine Dupont à ses côtés.
Bah, je pense qu'il répond sur le terrain. Hein. Il fait honneur à son surnom de Martien. On l'a vu aujourd'hui, il a touché je sais pas combien de ballons et il fait les différences à chaque fois. Après, on a quand même de la chance de pouvoir évoluer avec des joueurs comme lui, comme Thomas aussi. C'est des joueurs extraordinaires et c'est eux qui nous portent aussi vers le haut. Donc, ouais, il continue de nous surprendre.
Il continue de nous surprendre avec donc ce rôle de demi d'ouverture. Comment vous l'avez trouvé dans ce rôle-là? Il a eu un peu de mal à rentrer quand même dans le match. Il s'attendait peut-être pas à rentrer si tôt.
Il était dans une équipe qui était dominé. Donc
ouais. Après quelques mauvais choix, même personnels. En fait,
oui, des mauvais choix. Parce que je pense qu'il avait un trop plein aussi d'envie de bien faire. Hein. Donc il y a ça aussi. Et puis bon, dans un contexte du match difficile pour lui, mais il s'en est quand même sorti en première mi-temps. Il a fait deux ou trois mauvais choix, mais il s'en sort. Hein.
Il se fait quand même chipper le ballon.
Oui, alors il donne un
essai derrière.
Mais après, il fait quelques différences aussi quand même. Il arrive à
la question. La question, messieurs, dames, est-il meilleur en 9 ou en 10?
Non. Enfin,
Quoi?
Il est bon partout, en fait.
Moi, je préfère en 9, moi.
Mais Wilfried a raison de la question, parce qu'en fait, tu lui donnes plus d'espace. Déjà que lui, il a besoin de rien pour passer. Alors là, c'est impressionnant. À chaque fois qu'il avait le ballon, il était imprenable. Il passait à chaque fois. On se demande comment physiquement c'est possible.
Son jeu demande aussi d'être en très grande forme. Et je pense qu'il est en très très grande forme.
Il a fait du jeu avec le 7. Voilà, hein,
T'as vu l'explosivité qu'il a.
Vous avez vu le danger qu'il amène à chaque ballon qu'il touche.
Non, justement, j'ai
le raffut tueur qu'il a.
Oui, mais quand tu as ça, ça veut dire que tu as des explosivités, qu'il est au top de sa forme. Donc si tu veux, il est insaisissable.
Mais quand il est au top de sa forme en 9 aussi, il fait des coups incroyables.
Mais je dis pas ça.
Qui fait des départs incroyables.
Plus de vitesse.
Il a attendu autour des rails quand même.
Ouais. La question se pose, même au niveau international. Mais bon, il y a Romain qui va revenir.
D'autant qu'Antoine Dupont nous disait lui-même qu'il était devenu au fil du temps, parce que tout le monde se met sur lui à la sortie des rucks, qu'il était devenu plus passeur que franchisseur.
Exactement, on l'a dit dans ce podcast déjà, qu'il en avait fait plein des passes décisives et qu'il marquait moins à une époque. Et là, tu es
Alors la semaine dernière, rappelez-vous, on disait et si Ramos n'était pas meilleur en 10 qu'en 15, là maintenant on dit Dupont est peut-être meilleur en 10 qu'en 9. Et Ntama qui va jouer quoi, deuxième ligne?
12.
Il peut jouer 12.
C'est une option incroyable pour Toulouse et il a l'air de s'éclater en 10. Antoine Dupont, quoi, il part il fait la chistera pour Lebel, il fait une percée de 50 mètres en fin de match, il arrive sur les Gourgues en puissance dans le fermé, il arrive à passer comme ça.
Si tu mets une Tamac en 12, ça veut dire que tu te prives de Pita Aki, qui est certainement meilleur premier centre du championnat.
Il y a des options, en fait.
En tout cas, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat.
Est-ce qu'à un moment, il va pas vouloir se réinventer, Antoine Dupont aussi? S'il a tendu, aura. Enfin, voilà. Mais oui, avec une Tamac en 10, c'est très compliqué de faire ça. Mais moi, je le trouve incroyable en numéro 10 aussi, quoi. C'est ce mec-là. On arrive, moi, le dimanche soir avec les pop-corns sur le canapé.
C'était déjà le cas, je crois. C'était face à Bayern où il avait été mis en numéro 10.
Je me déshabille et je...
Waouh.
Bon, on va te laisser,
Wilfried.
Mais
c'est fou. Mais tout le monde, Winnie, Christophe, Denis, vous avez déjà vu un mec faire tout ça? Non. Ça arrive à 6 complets. Défense, jeu au pied, attaque, c'est le Martien.
Et ça va devenir encore plus quelqu'un de surcomplet grâce au 7, très certainement. Autant physiquement que techniquement.
Excusez-moi.
Qui s'est cassé le micro?
Christophe, il tape son micro.
On dirait Denis qui pose son casque pendant le match.
Non, mais
Qu'est-ce qu'il est prévu pour Antoine? Tu le disais tout à l'heure. Donc, il va devoir quand même faire des choix en fin de saison.
Bah, les choix, ils sont déjà faits.
Il y a un tournoi à 7.
Ouais, le seul choix qu'il doit faire là d'ici les Jeux Olympiques, c'est est-ce qu'il fera ou pas? Est-ce qu'il participera ou pas à la dernière étape du World Seven Series, c'est-à-dire la grande compétition de rugby à 7, parce que c'est à Madrid. C'est le tournoi final, juste avant les Jeux, dernière occurrence. C'est la seule, C'est le seul moment où on pourrait encore voir Dupont jouer en rugby à 7 avant jeux. Mais ça se télescope avec la dernière ligne droite du championnat. Ce sera une semaine après la finale de Champions Cup. Si Toulouse, et Toulouse est quand même plutôt bien parti pour surfer sur la Champions Cup, est en finale, ils vont certainement faire appel à Dupont. Ça veut dire que ce serait qu'une semaine après la finale de Champions Cup.
A priori, il est prévu, Winnie.
Et mais il est prévu, c'est ce que nous a dit Jérôme Daré, c'est ce que nous disent ses coéquipiers, c'est ce qu'il dit lui-même, il est décomplet.
C'est déjà décidé.
Il en parle de mardi.
Il louperait le match contre La Rochelle, mince.
C'est la 24e journée, non, c'est pas ça,
La 25, je crois même.
25e journée, C'est vraiment la dernière, dernière ligne droite avant les phases finales de Top 14, c'est juste après la finale. Donc c'est quand même un moment important pour le club, mais a priori, il est attendu à Madrid avec l'équipe de France de rugby à 7.
Voilà, tu te rends compte, une semaine après une finale de Champions League potentielle, allez, va faire un tournoi à 7. Non, pas de problème. Allez.
On y va, mais c'est en fait
de le préserver un peu quand même, notre génie.
Oh, ça va, il s'est réservé. Hein.
C'est préservé, tu trouves?
Bah, oui. Bah, il se régénère mentalement. C'est lui-même qui le dit. Ça lui fait un bien fou d'aller voir ce qui se passe à 7.
Il y en a un autre qui est forcément régénéré et qui va faire donc son retour la semaine prochaine. C'est Romain Ntamack. On espérait peut-être le voir hier soir. Il était dans le groupe.
Il était même sur la pelouse. On l'a vu sur la pelouse. Il s'est échauffé.
On a préféré le garder pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on a une idée de sa forme, Wilfried, toi qui assistes de temps en temps aux entraînements, même si c'est pas toujours facile d'approcher les mecs, qu'est-ce qu'on en dit à Toulouse? Est-ce que il est fin prêt? Est-ce qu'il a la rage? Est-ce qu'il a l'appétit? Ouais, il est prêt.
Oui, il est prêt. Ouais, il est prêt. Ça fait, on va dire un mois qu'il fait de l'entraînement collectif, un petit mois qu'il fait de l'entraînement collectif. Donc il est prêt 7 mois et demi après sa blessure. Le revoilà parfaitement pour le printemps. Romain Ntamack, vous rendez compte quoi, c'est ils sortent des mecs du chapeau comme ça. Ah si, on a aussi Romain Ntamack là. Allez hop. Donc, normalement il joue contre Pau ce week-end. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Toulouse.
Voilà, mais bon, il y a un pléthore de numéro 10 dans cette équipe du Stade Toulousain.
C'est un problème de riche.
Je pense que
surtout si Ramos est un peu touché là à la crête iliaque, ça peut pas être trop grave, mais un coup à la crête iliaque, donc c'est apparemment c'est très douloureux. Je sais pas si Denis,
c'est
ce déjà arrivé.
Le cartilage j'ai eu, mais lui apparemment c'est un peu pareil.
Donc on sait jamais hein, s'il peut pas jouer le 8e contre le Racing, au moins ils ont un tamac quoi, voilà, c'est
au moins, j'adore. Voilà. Bon, au moins, ils ont toujours
de la ressource, ces Toulousains, c'est incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie le fait qu'ils aient réussi à passer la période de doublon comme ça, sans trop de dommages. À la différence de tous les autres, à la différence du Racing qui a dégringolé complètement.
C'est surtout le Racing qui est le grand perdant de cette période.
Bordeaux, on le disait tout à l'heure, a perdu pas mal de matchs également. effectivement, c'est le Racing qui a le plus dégringolé.
Ah bah,
mais Toulouse est habitué depuis le temps, Wilfried, à ce genre de truc et finalement ça motive encore plus justement les mecs qui peuvent se mettre en avant à ce moment-là quoi.
Ils s'entraînent avec eux toute l'année, donc ils ont leur chance, ils sont lancés dans le grand bain dès qu'ils peuvent, donc ils savent gérer ces doublons. 23 points en 6 matchs, meilleur club, alors qu'ils ont le plus d'internationaux qui sont partis. Imaginez, quand le Racing, Winnie, tu le disais, on a pris 4, une victoire en 6 matchs, 4 points. Le Racing était, ce que tu nous rappelais,
à la fin de la phase aller, ils étaient leaders, c'est-à-dire une semaine avant le début du tournoi. À la fin du tournoi, ils sont aux portes du top 6, c'est-à-dire qu'ils étaient 6e. Alors là, ils sont remontés ce week-end grâce à leur victoire d'un fil face à Castres. Mais grâce à quoi? Grâce au retour des internationaux, et notamment d'un certain Nolan Le Garec, la sensation du tournoi. Donc là, on a les clubs qui sont vraiment impactés par l'absence de leurs internationaux. Toulouse, c'est moins le cas, peut-être parce qu'il y a une résilience au fur et à mesure de ces saisons, parce qu'il y a une génération qui a toujours été happée en bleu et que Hugo Mola a bien dû trouver une ressource quelque part. Le Racing, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 5 Français, et puis on ajoute Will Rolands, le deuxième ligne gallois, qui est parti donc avec le Pays de Galles pendant le tournoi. 6 joueurs cadres qui sont partis, et Stuart Lancaster disait c'est cool, on va tester des joueurs. Bon.
Ouais. Non, mais le ratio est quand même énorme. Ils font 4 défaites en 12 journées avant le tournoi, 8 victoires, 4 défaites, et ils font 5 défaites en 6 journées de doublon. Quoi. Donc le contraste est incroyable
est
pour le Racing.
Différent.
Ok, l'UBB, donc on l'a dit, s'en est sorti avec donc quand même 4 défaites sur 6 matchs disputés dans la période des doublons. Mais grâce à ce succès hier soir face à Toulouse, remonte sur la 3e marche du podium. Bon, c'est très serré évidemment, et on n'est pas sûr qu'il reste à cette position à la fin de la saison. L'UBB et sa ligne de 3 quarts galactiques, ça devait énerver les Toulousains en plus quand on parle des 3 quarts galactiques de la part de
C'est pas Clément Poitrenaud justement qui s'en moquait un peu.
Non, il s'en moquait pas. Il a dit, mais je connais ce club.
J'avais perçu comme
je
une petite pièce, moi.
Mais il faut le voir un petit peu comme ça. Dans sa bouche, il dit les trois quarts galactiques. Et avec le matos qu'il a, lui, chez les trois quarts, il le dit pas, ils le diront pas. Mais pour connaître un petit peu les arcanes de ce club depuis quelques deux décennies, je sais que ça les titille quand on parle de galactique ailleurs.
Évidemment.
Ils se nourrissent de ça, quoi. Vous savez très bien, vous-même.
Forcément. On a donc retrouvé hier soir le Penaud stratosphérique que l'on aime tant. On a vu un Jalibert qui oriente le jeu, tente des choses, et même un Lucu bien plus en verve qu'avec le maillot bleu. Il faut dire que derrière un pack qui avance et qui offre des ballons, c'est quand même plus simple.
Mais
Denis,
très bon. Très bon, mais puis bon, ça a avancé, ça a éjecté, il était présent dans les rucks, il a imprimé de la vitesse, tu vois, ce qui n'était pas le cas en équipe de France trop, par rapport aux circonstances de jeu aussi. Mais là, il a été très bon, je trouve qu'il est revenu.
Ouais, son coup de pied sur l'essai de Penaud,
excellent. Il a qu'il avait envie de prouver aussi. Je crois qu'il avait.
Il l'a vécu difficilement, il l'a dit d'ailleurs en équipe de France lors du dernier match, ça n'a pas été facile à vivre pour lui.
Chapeau à lui, c'était pas évident. De rebondir, et il l'a fait d'une très belle manière.
On va l'écouter, Maxime Lucu, demi de mêlée de l'UBB, donc sur l'émotion que lui a suscité cette rencontre.
Oui, forcément, un match comme ça, c'est beaucoup de force dans la bataille, beaucoup d'émotion. C'est une très bonne première mi-temps, une seconde mi-temps pour Toulouse. On s'est mis un petit peu en difficulté tout seul par nos erreurs, mais en tout cas, les émotions, elles étaient fortes aujourd'hui, à l'image de la communion avec le public à la fin. Ça fait plaisir de vivre des moments comme ça, et aujourd'hui, on savait que c'était un rendez-vous, on l'avait loupé l'année dernière. Aujourd'hui, on a réussi, donc forcément, on est très heureux.
Maxime Lucu qui retrouve le sourire, tout comme Mathieu Jalibert, qui lui avait quitté le tournoi en cours sur une blessure après des premières prestations qui n'avaient pas convaincu beaucoup de monde. Mais hier soir, il a retrouvé tout ce qui fait de lui un garçon et un joueur à part. Christophe Lossuc, l'entraîneur des trois quarts bordelais, vous allez l'entendre, était ravi de la prestation de son ouvreur qui revenait, on le rappelle, de blessure.
Mais très bien, déjà ça fait du bien mentalement et moralement à tout le monde. Il a rassuré un peu tout le monde, ses coéquipiers déjà. Quand ils ont su qu'il postulait, qu'il allait tenir sa place, c'était déjà quelque chose qui rassurait un peu le groupe. Et il a bien géré la première mi-temps et il a un peu baissé en deuxième mi-temps quand toute l'équipe a commencé à l'avoir un peu dur. Lui, plus la blessure de Romain Burros qui n'était pas prévue, qui était un peu dans nos hommes en forme. Bon, j'ai pas discuté avec lui. La période où il a été là, il a été bon, il a bien distribué, il a été efficace et surtout, je dis, il a redonné de la confiance un peu à tout le monde. Il est important. Dans ce groupe.
Important dans ce groupe, Christophe Lossuc qui cite également Romain Burros. Hein, celui-là,
il a été exceptionnel.
Magnifique en 15 aussi. Hein. Il peut peut-être postuler. Bon, là, évidemment.
Il a été dans les 42 déjà, ces derniers mois, Romain Burros. Hein. Il est dans l'œil de Galtier. Hein.
Il est dans l'œil de
Sauf
Galtier.
Que Barré, ce qu'on dit, Barré fait 10 aussi. Burros,
il
faut être polyvalent
maintenant.
Il n'y a
pas la polyvalence.
Appelez-vous Brice Dulin.
Cher au staff tricolore.
Ouais, c'est ça le problème.
Après, il y en a deux autres, moi, que j'ai particulièrement remarqué du côté bordelais.
Beauchaton.
Pierre Beauchamp.
J'adore son nom.
Mais, non, mais au-delà
joueur,
de son essai, du grattage sur la ligne, sur le buzzer pour éviter l'essai de la gagne pour Toulouse, il a été énorme en défense. C'est celui qui a le plus plaqué, 19 plaquages pendant le match. Ouf. Il y en a un autre aussi.
Le talonneur qui tente de faire un 4-deb sur Dupont aussi, j'adorais ça.
Mais non, Dupont claque la balle juste au bon moment.
T'es réussi. Hein.
Ouais. Non, mais puis Tevita Tatafu, le numéro 8 international japonais. Il est énorme. Mais lui, c'est celui qui a fait plus
C'est le frère du Bayonnais, non, pas aucun rapport. Hein.
Aucun rapport, Tatafu et Tatafu. Non.
Tatafu
de Bayonne n'est pas Tatafu de l'UBB. Ouais. Rien à voir.
Ils ne sont pas cousins.
Ils ne sont pas cousins
ni rien.
Ils sont éventuellement cousins lointains du Pacifique, mais
peut-être.
C'est tout ce qu'on
peut
leur
trouver. Je ne suis pas sûr
qu'ils le savent. Wilfried, est-ce que la charnière bordelaise est remontée dans ton estime? Parce que je sais que. Dans notre conversation WhatsApp, ça chauffe souvent avec Nicolas Paolorsi, qui défend vaillamment ses bordelais, alors que toi, tu les assassines plus régulièrement.
Non. T'étais pas là, on a fait un excellent podcast la semaine dernière, que je te conseille. On a fait le bilan et on a parlé de Lucu, mon cher Christophe, et je rendais hommage à Lucu, qui a eu des circonstances difficiles en équipe de France, qui est un vrai leader à l'UBB, on l'a revu encore ce dimanche soir, mais qui n'est pas du tout dans le même profil d'Antoine Dupont, même de Nolan Nogarek. Lui, il est plus un peu plus gestionnaire que par rapport à l'animation des zébulons Dupont et Le Garec. Je pense, arrêtez-moi si vous pensez le contraire, que Jalibert sort d'un tournoi avec encore un point d'interrogation. Aussi dans les circonstances qui
j'aurais bien aimé le voir en fin de tournoi avec une équipe
je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le Ramos est arrivé derrière,
oui.
Et avec un paquet avant, ça s'est bien passé pour Ramos. Oui. Et maintenant, qui est vraiment numéro 2, c'est bah, personne ne peut vraiment le dire encore derrière Ntamack, si Ntamack revient en numéro 1, c'est ce que je voulais dire.
Mais Thomas Ramos,
je dis pas que ce sont des mauvais joueurs, j'ai jamais dit ça, espèce de
si,
coquin.
Si,
mais est-ce que Thomas Ramos a vraiment envie d'être installé au poste de numéro 10 parce que lui-même semble dire que
si Ntamack est blessé, est-ce que si Ntamack est blessé, Fabien Galthié mettra Jalibert ou Ramos?
Ouais,
non mais avec un barré à l'arrière. Répondez à cette question.
Moi j'ai lu une interview de Fabien qui avait énormément confiance en Mathieu Jalibert.
D'accord, mais Denis, Ntamack est blessé avec Barré qui postule à l'arrière. Fabien Galthié mettra Jalibert, Ramos ou Ramos,
bah,
Barré.
Je sais pas, moi. Je sais pas, mais.
T'es payé pour ça, s'il te plaît. Alors,
non, parce que je suis pas payé pour t'annoncer
des compositions d'équipe. Hein.
Ah, tu pourrais, excuse-moi. Alors toi, si on mets ton masque de Fabien Galthié et mets tes lunettes. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais toi alors?
Moi je mets Mathieu Jalibert, bien sûr.
Ok.
Tout le temps.
D'accord.
Mais donc, okay. Thomas Ramos n'a pas prouvé non plus qu'il était un grand ouvreur international.
Sur son dernier match, il fait un fantastique boulot au pied, mais c'est pas non plus ouvreur.
Mais moi j'ai une question. Enfin, est-ce que Thomas Ramos, on l'a décalé? Est-ce qu'on a décalé plus à l'aile Thomas Ramos en défense sur notre système défensif, contrairement à parce que Mathieu Jalibert, on a dû resserrer les centres pour protéger la zone du 10 parce qu'on sait que Mathieu Jalibert avait eu de mal sur cette zone-là en défense.
Est-ce
que
Thomas Ramos, c'est pareil, hein.
Alors Thomas Ramos, il a un peu subi en défense, c'est ce qu'on visait les Gallois et ils ont réussi. Entre lui et De Porter, il y a eu des moments
même
de trou d'air, des mauvaises connexions. Mais ceci dit, il a quand même couvert un petit peu
la question,
de vigueur défensive.
Thomas Ramos le met en numéro 1. Après, il faut réfléchir à savoir son efficacité, est-ce qu'il apporte plus à l'arrière qu'à l'ouverture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il apporte plus en étant arrière qu'ouvreur en équipe de France. C'est mon sentiment.
Et il semble préférer ce poste.
Et puis, tu sens qu'il le préfère, tout simplement.
Oui, on a bien compris que le futur numéro 10 de l'équipe de France, c'était Antoine Dupont. C'est en tous les cas le vœu de Wilfried Templier.
Voilà.
C'est pas mon vœu.
Ouais, c'est ce que t'as dit, Wilfried. On va retenir ça.
Moi, je me pose des questions, je me remets en question.
On le dira à Fabien, t'inquiète pas.
Pour en revenir à l'UBB, est-ce que l'UBB, de par cette prestation hier soir, est désormais la rivale numéro 1 du Stade Toulousain dans la quête du bouclier de Brennus?
C'est tôt pour le dire.
Oui, c'est un peu tôt, évidemment. Puis on va voir
sera La Rochelle si ça se qualifie. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'UBB soit la seule équipe.
Moi, je pense
pas.
Au stade actuel, tu as une demi-finale entre La Rochelle et l'UBB. Tu vois qui passer?
La Rochelle et l'UBB? Bah, ça va être chez eux, donc ça va être ça va être compliqué. L'année dernière, ils sont passés
donc
à travers.
C'est déjà un début de réponse.
Mais non, mais oui, je pense qu'ils ont une chance de. Mais il faut aller quand même en demi-finale. Tu me fais rire, le bébé.
Oui.
Il y a Forgia qui se qualifie dans les 6. Pas fait. La saison n'est pas
tellement
finie.
Tellement serré. Moi, je vois bien le Racing revenir très fort. Le Racing revenir très fort. Quand Colizzi pourra rejouer, parce que là, il est encore blessé au doigt, avec le retour en force des internationaux, je vois bien le Racing tenir tête. On n'est pas encore au niveau de Toulouse, on est bien d'accord.
Ah oui.
Mais moi, je pense qu'ils ont les ressources pour, et qu'eux aussi, ils ont été un petit peu piqués en fin de saison dernière, et qu'ils auront envie de faire mieux. Mais faut-il encore qu'ils restent dans le top 6?
Après,
parce que tout est
tellement
serré.
Moi, je vous dis, attention
européen,
à La Rochelle qui fait une saison en dents de scie, et quand ils vont reprendre l'effectif qui est le leur et l'équipe type, ça va être un drôle de
ouais,
leur
alors, ils vont en Stormers, ils vont jouer en Afrique du Sud. Et s'ils gagnent en finale, ils vont au Leinster. Non, mais c'est important d'aller au parcours européen.
Ah oui, mais non, mais je pense qu'ils n'ont aucune chance avec l'Europe. Par contre, je pense qu'ils vont tout axer sur le titre.
Ça veut dire qu'ils peuvent être éliminés en quart et avoir
le
week-end de repos en
demi-finale
de Coupe d'Europe. Mais c'est pareil pour beaucoup d'équipes.
Mais regarde,
le
Racing, le 7 avril, a de grandes chances de perdre sur la pelouse de Toulouse en 8e de finale de Coupe d'Europe. Mais derrière, ça veut dire qu'ils vont se concentrer, comme le fait déjà le Stade français, sur le top 14.
Sur le championnat,
Voilà.
Personne ne parle du leader du top 14, leader incontesté, le Stade français.
C'est vrai.
Ouais. Hein, Stade
c'est
français
qui
a repris les rênes
sans bien jouer. J'étais un jambouin encore samedi.
C'était difficile, hein?
Oui, difficile, toujours difficile, mais ils gagnent. Ils ont quand même.
Ils ont 10 points d'avance sur Bordeaux.
Ils sont chiants en jouant en phase finale.
Hein.
Bah, ils sont pénibles devant. Non, mais de toute façon, ils ont une première ligne. En plus, ils ont une deux, trois premières lignes costauds. Ils ont un pack d'avant qui est assez intéressant et Pesanti là qui a fait un match énorme là, qui est un drôle drôle d'énervé.
Et... Non, mais ils seront très pénibles à jouer en phase finale. Ouais.
Avec un cocotte à la mêlée qui est redoutable aussi de bêtises. Non, ils sont armés pour contrarier beaucoup de monde.
Ok. Ouais. Vous voyez une de ces équipes réussir à faire tomber le Stade Toulousain, ou le Stade Toulousain est largement favori pour se succéder à lui-même.
Mais depuis hier soir, non.
Depuis hier soir, non. D'accord, ils sont plus favoris. Ok.
Mais il y aura match. Surtout que le Stade Toulousain a un grand objectif qui est la Coupe d'Europe. Avoué depuis le début.
Moi, je pense qu'il y aura match parce que tu as laissé des plumes en route. Tu seras pas de.
Après, si tu surfes sur la Coupe d'Europe comme pendant les phases de poule, ils vont pas y laisser beaucoup de plumes. Ils vont surtout se redonner un petit coup de boost supplémentaire.
C'est important pour l'UBB. Le match qu'ils aient gagné, déjà. C'est pour ça que j'insiste qu'ils ont gagné.
Ouais.
Très bien, bah nous verrons. En tout cas, c'est excitant tout ça. Et on va avoir le temps de se régaler. 7 matchs encore dans régulière de ce top 14. Entrecoupé donc des
Toulouse Racing, Toulouse Stade Français. Je vous dis ça au passage. Regardez le calendrier de Toulouse. Ils reçoivent le Racing, le Stade Français et La Rochelle. Hein. Donc ils ont encore des gros matchs.
Ils vont pas s'ennuyer.
Ils vont à Toulon une semaine après un potentiel quart de finale. Donc voilà, ils finissent à Lyon, qui va jouer le maintien. Le calendrier de Bordeaux, c'est pareil. Ça va être génial. On change d'heure le week-end prochain. Ça sent le printemps. Ça sent les phases finales.
On sent les merguez. On entend les bandas. Voilà, on y est là.
Félicité l'USAP qui est allé gagner à l'Oyonnax, qui a pratiquement sauvé. Ouais. Chapeau à eux. Bravo.
C'était pas gagné d'avance. Merci Winnie, Wilfried et Denis. À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Pour un nouvelle édition. Oui, au revoir.
Salut Denis.
Il est déjà dans son Range Rover.
Il respecte rien, ce mec.
J'entends rugir le moteur de son Range Rover.
Ah ouais, non. Il est en train de nous dire qu'il a le super moscato show. Voilà. Et il le retourne.
Voilà. Là, il a fait le sérieux pendant une heure. Maintenant, il va dire des conneries pendant deux heures. Bonne journée, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao.
Ciao.